France Musique. Musique et moi.
Arthur Teboul.
Priscille Lafitte. France Musique.
La montagne s'incline une seconde. Aucune de ses pierres ne sourit. Si tu cherches une récompense pour ce que tu fais, laver la vaisselle ou jouer Chopin, alors plutôt ne fais rien. Tu as par avance échoué dans l'absolu chef-d'œuvre de la vaisselle ou du poumon des anges. Chopin est une inhalation pour les anges asthmatiques, ces hypersensibles saupoudrés sur terre dès leur naissance jusqu'à leur mort. Car les anges naissent et meurent comme Bouddha, comme les tortues et comme nous. Mais je m'égare. Si tu cherches les félicitations, reste au lit. Au moins, pourras-tu espérer faire d'un sommeil un chef-d'œuvre inconnu. La montagne Sokolov, à la fin d'un récital, s'incline juste une fois pour dire « Je n'ai aucun mérite. Je me suis effacé une heure et demie. C'est une gloire secrète que votre silence m'a permis, dont je vous sais gré. Je suis le saint bossu des pianistes. Saint, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Disparaître en se jetant dans la flamme des fleurs ou dans les bras des morts est un luxe inouï. Une heure et demie, hors de ce monde dont les remparts brûlent. Ce qui s'éloigne est tellement beau. Le son du piano, ce noir velours d'un abandon qui s'épanouit avec l'agonie de chaque note. Quelqu'un s'en va, nous quitte, s'embellit de nous échapper. Nous ne le ferons plus souffrir avec nos paroles, nos projets, nos volontés.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Merci. Musique et moi. Vous êtes poète, chanteur, parolier du groupe Feu Chatterton et vous publiez le deuxième volume de vos poèmes minutes. Ça s'intitule L'Adresse, c'est paru aux éditions Segers et ça l'a fait suite au Déversoir qui avait rencontré un large public. Et L'Adresse résulte justement de l'aventure collective d'un cabinet de consultation en écriture automatique que vous avez ouvert pour donner corps, donner chair à la démarche du déversoir. Chopin est une inhalation pour les anges asthmatiques. Ce texte n'est pas de vous, Arthur Teboul, que vous venez de nous lire, c'est de Christian Bobin. Pourquoi vous a-t-il plu ?
Christian Bobin est un auteur que je chéris beaucoup, dont j'ai rencontré les textes il y a finalement assez peu, 4-5 ans. Et ça a tout de suite été un bouleversement. Pourquoi ça me touche ? Peut-être de savoir que ce texte est écrit juste avant qu'il quitte ce monde. Donc il vient d'être publié. Et aussi parce que j'aime beaucoup les hasards, les signes. Or, pour cette émission, vous m'avez demandé de choisir un texte. Et j'y pensais sans y penser. Et j'ouvre Le Murmure de Christian Bobin et je tombe sur ces lignes qui sont d'un auteur que je chéris et qui parle de musique classique. Je me suis dit que c'était une occasion merveilleuse de propager un peu sa parole à lui.
Qu'est-ce que ce texte nous dit de la façon dont Christian Bobin écoute la musique ?
Je crois qu'il nous dit surtout quelque chose de la façon dont Bobin apparaît. De la façon dont, en tant qu'artiste, c'est un grand mot mais quand même, interprète, homme de scène, on apparaît et on disparaît. Et ce qui me touche en tant qu'homme de scène, c'est comment Bobin fait de Sokolov un être d'une telle humilité. Et je crois que c'est une leçon pour tous ceux qui cherchent à apparaître, à être en scène, à se montrer, à montrer le meilleur d'eux-mêmes. C'est de ne jamais oublier que nous ne sommes qu'un miroir plus ou moins déformant et que plus on disparaît derrière notre message, derrière ce que l'on fait, ce que l'on joue, plus c'est puissant, beau, humain, partagé. Voilà, donc c'est un pense-bête pour moi qui vais souvent sur scène. Quand on craint de décevoir ou de ne pas être lumineux, on a tendance à se réfugier dans son visage et sa force. Alors qu'il faut à ce moment-là déjouer cette crainte pour disparaître derrière le geste.
Oui, parce que Christian Bobin parle de montagne, Sokolov, et le moment où il disparaît de la scène, c'est ce moment-là qu'il décrit.
Oui, j'imagine que c'est le moment des applaudissements à la fin du spectacle, quoi.
Ce Musique et moi promet d'être aussi un mot et moi. Avec vous, Arthur Teboul, nous allons chercher à entendre la poésie des musiques, détricoter les textes et leurs sous-textes, démêler leur corps à corps. Premier travail de dissection, Henry Purcell, L'air du froid.
Thank you.
1984, Klaus Nomi popularise, c'est-à-dire fait accéder à la culture pop, cette ère du froid de Henry Purcell, sortie du XVIIe siècle, réchauffée avec des synthétiseurs. Est-ce que Klaus Nomi est ici interprète ou recréateur, à vos oreilles, Arthur Teboul?
Interprète. Ce que j'aime dans sa version, c'est qu'il parvient à révéler de cet air si grave et solennel, où on sent le vent souffler très fort, et on grelotte, on sent l'ombre de la mort dans l'air, mais on sent aussi, et Klaus Nomi va à fond, le burlesque de cette mélodie répétitive, voire le grotesque. Et ça me plaît beaucoup dans la vie en général, quand le sublime et le grotesque se mélangent, que la gravité et l'humour cohabitent. C'est assez rare dans les œuvres, alors que dans la vie, c'est très souvent le cas, quoi.
Est-ce qu'on peut écouter une autre version ?
Bien sûr.
Since the night, how stiff and wondrous world, far, far unfit to bear the bitter cold.
Vous avez reconnu Arthur Teboul?
Pas du tout, c'est très surprenant.
C'est Sting?
Ah ouais, incroyable, oui. La voix là aussi.
Mais oui.
Incroyable. Je m'en serais pas douté.
Autre version.
I can scarcely move or draw my breath. Can scarcely move or draw.
Sébastien Myrus, avec l'ensemble Vox Luminis dirigé par Lionel Meunier. Arthur Teboul, quelle est votre version de cœur entre ces trois-là? Ça reste Klaus Nomi?
J'aime beaucoup la troisième parce qu'elle me rappelle la version qu'on écoutait avec mon père dans la voiture, enfant. Pour ça aussi que cet air, je le trouve amusant. C'est peut-être surprenant dit comme ça parce qu'on sent une immense gravité, le personnage est sombre.
Puis la tension.
Oui, la musique parvient à nous donner cette froideur, cette chose anguleuse, glacée. Mais je me souviens que dans la voiture avec mon père, enfant, on aimait imiter ce débit, cette voix qui bute un peu. Et donc, j'aurais toujours ce personnage du froid comme ça, à la fois inquiétant et drôlatique.
Qu'est-ce que ça dit aussi de l'écriture de Purcell qui part de ce texte? Vous qui êtes justement dans cette cuisine de mettre de la musique sur des textes, qu'est-ce que vous comprenez de sa démarche à lui?
Assez peu, parce que je suis pas un spécialiste, mais je vais parler de sentiments, d'instinct. Mm-hmm. Ce que je ressens, c'est cette grande force d'avoir réussi à ce que le son et le sens s'épousent, se répondent exactement. Ce qu'on cherche tous à faire lorsqu'on veut mettre en musique un texte. D'ailleurs, mettre en musique, c'est déjà se tromper. Parce que ça voudrait dire que le texte a sa forme et qu'on essaie juste de le saupoudrer de musique ou de lui révéler une forme supplémentaire en musique. Non, c'est quand il y a une rencontre entre le son et le sens. Et là, c'est ce qui est très beau à l'écoute. Enfin, j'en parlais, c'est que l'instrumentation, la rythmique, le débit de voix, la mélodie nous apportent le vent, la glace, l'ombre. Ce que dit le texte.
Mais en fait, on ne prête plus vraiment attention au texte dans cette heure-ci.
C'est vrai, déjà parce que ce n'est pas forcément notre langue maternelle.
Oui.
Mais il y a ce titre. Mmh. Le titre d'une chanson frise, c'est quelque chose.
Oui.
Et puis, l'air du froid. C'est vrai, on ne prête plus vraiment attention au texte.
Le Nisi Dominus d'Antonio Vivaldi, tiré du psaume 126, James Bowman contre ténor avec Christopher Hogwood et l'Academy of Ancient Music. J'ai l'impression que vous avez un goût, Arthur Teboul, quand même, pour les airs ascendants et chromatiques après l'air du froid. Est-ce que vous-même, vous vous êtes d'abord essayé au chant ou à l'écriture des textes ?
À l'écriture. Je suis devenu chanteur un peu par accident. Accident heureux pour ma part, parce que c'est une découverte. Et c'est drôle, c'est paradoxal, parce qu'on parlait de musique, là, du fait qu'on oublie les mots de l'air du froid. En écoutant là, le morceau de Vivaldi, je me disais aussi, et c'est marrant, qu'en premier lieu, je suis attaché aux mélodies. Ce sont les mélodies qui me font entrer dans une musique et l'aimer. Mmh. Alors que je suis venu à la musique par le pur texte. Parce que, adolescent, je chantais pas, je joue pas d'instrument de musique. C'est parce que j'ai rencontré mes camarades au lycée, qui eux étaient musiciens et qui avaient un groupe, que j'ai fait de la musique et qu'on est devenu feu Chatterton. Maintenant, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on se connaît.
Mais pour autant, là, vous êtes attaché à des voix. Que ce soit Klaus Nomi un peu plus tôt, la version qu'on entendait de Sébastien Mérus, et puis ici, James Bowman, c'est bien la voix qui attire votre oreille, non ?
Oui.
C'est une façon de... C'est pas tant une façon d'habiter un texte que d'habiter une mélodie.
C'est vrai que... Ce que j'aime, c'est ressentir... l'interprète, l'humanité de l'interprète, avec ses faiblesses, son grain, son originalité.
Est-ce que là, le fait que James Bowman chante sans vibrato est un élément qui vous touche ?
Je pense du fait qu'il y ait quelque chose de très direct, en fait, de proche. Une voix me touche quand je la sens honnête et proche. Alors, on ne rencontre pas tous les mêmes voix, on ne se sent pas proche des mêmes personnes et des mêmes... interprète les mêmes individus dans la vie, quoi. Mais oui, je peux tomber amoureux d'une voix parce que elle me rappelle la familiarité ancienne, quelque chose qui viendrait d'ailleurs et qui me semble déjà là, reconnu. On se reconnaît dans l'autre.
Et là, vous reconnaissez quoi ?
Souvent, c'est aussi un souvenir parce que la musique classique, c'est encore un chant qui m'est assez... inconnu, un monde que je vais découvrir, que je découvre petit à petit. Et c'est par touche pour l'instant que j'y pénètre. Et je me souviens d'un moment où, dans une grange, il y a une quinzaine d'années, voire plus, un ami met très fort le Stabat Mater de Vivaldi. On était trois et on a été émus aux larmes. Donc, chercher des explications, c'est difficile parce que il y a toujours quelque chose de magique, de mystérieux dans la musique. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce que quelque chose d'inexplicable nous touche ailleurs que dans notre esprit, dans notre rationalité, dans notre tête. Ça vient soit réveiller quelque chose, on ne sait où, soit nous rappeler à nous-mêmes. Enfin voilà, ça, on accepte plus facilement d'ailleurs qu'à d'autres endroits de nos vies que la musique nous pénètre dans un endroit mystérieux de nous-mêmes qui dépasse la raison, qu'on appelle parfois l'enfance, le souvenir, le sentiment.
Mais qui n'est pas le même endroit que le texte, qui n'est pas le même endroit que la littérature ?
Avec quand même une frontière qui serait la poésie.
Ouais.
Je trouve que la langue poétique, le poème, est à cette frontière qui accepte que les mots, alors même qu'ils sont les réservoirs du sens, que même les mots qui sont les réservoirs du sens puissent s'échapper, aller ailleurs. Donc la langue poétique me touche pour ça, c'est que elle nous rappelle en fait que ce monde est plein de mystères et qu'il vaut mieux l'accepter. Parce que s'en remettre à sa pure rationalité, raison, compréhension, ça nous assèche en fait. J'aime bien me réveiller avec des poèmes parce que je ne les comprends pas. Alors, vous expliquer pourquoi la voix de James Bowman me touche, je ne peux pas.
Vous disiez à l'instant que vous découvrez encore des musiques. Juste en préparant cette émission, je vous ai dit, mais est-ce que vous connaissez tout le répertoire de la mélodie française ? Et j'avais envie de vous faire entendre ceci.
Prends le pas.
Les berceaux de Gabriel Fauré sur un texte de Sully Prudhomme, Ian Bostridge et Julius Drake, dans ce mariage du texte et de la mélodie qui nous intéresse ce matin avec Arthur Teboul. Qu'est-ce qui fait une interprétation juste ? On se posait la question justement en comparant différentes versions de cette même mélodie. Est-ce qu'une voix de chanson pourrait fonctionner là-dessus ? Est-ce que vous pourriez l'interpréter, vous ?
Difficilement, parce que ce dont je me rends compte là, c'est que c'est un alliage très subtil et un équilibre vraiment délicat. Pour que ça fonctionne, il faut accepter de vocaliser d'une manière à ce que le texte ne soit plus tout à fait intelligible. Finalement, là, quand on écoute, on a du mal à comprendre les mots. Et d'ailleurs, on a choisi un interprète qui n'est pas français.
Oui, Ian Bostridge.
Et alors, paradoxalement, je crois que c'est ce qui fait que cette version fonctionne. C'est que dans cette manière de donner une mélodie à ce texte, avec parfois des syllabes très longues, une écriture mélodique qui est très loin de la façon naturelle qu'on aurait de dire le texte, si on tire vers le sens pur, vers la langue plus naturelle, qu'on essaye de préserver cette mélodie, tout en ayant une façon de dire le texte plus proche de la nôtre, j'ai l'impression qu'on tombe, que le morceau tombe. Et voilà, mais je le découvre en même temps que je l'écoute, parce que spontanément, j'aurais été tenté de dire un texte qui est difficilement intelligible, il y a une perte, une perdition, alors ce sera un échec. Non, je crois que c'est ce qui est beau là, c'est d'assumer en fait cette sorte d'entre-deux où on saisit quelques bribes, quelques mots, et on se laisse porter par la puissance de la mélodie et de la musique, qui fait qu'on travaille autant que l'auteur du texte, finalement. On s'invente un peu une histoire. C'est un peu ce qu'on fait quand on écoute des chansons en langue étrangère, au départ. Peut-être que petit à petit, on se familiarise, mais je me souviens, enfant, écouter Bob Dylan, sans n'y rien comprendre, mais en pressentant déjà beaucoup. Je crois que j'y comprenais déjà beaucoup. Parce que vous me demandiez qu'est-ce qui fait un bon interprète. Au fond, Bachung, par exemple, pourrait à peu près chanter n'importe quel texte. Les mots deviennent un véhicule un peu abstrait pour y mettre son âme. Et les grands interprètes peuvent s'emparer de n'importe quel mot pour y dire tellement de choses qui débordent le vocable même.
Je vous propose, Arthur Teboul, qu'on délaisse la voix chantée, qu'on s'attache au piano à nouveau.
Thank you.
de tout le Nocturne de Chopin, voici l'opus 72 numéro 1, le Nocturne numéro 19 de Frédéric Chopin, donc par Arthur Rubinstein au piano. Arthur Teboul, croyez-vous que Chopin se soit lancé lui-même en écriture automatique parfois ? Est-ce que vous, ou une forme d'improvisation, comme vous aimiez en la pratiquer dans l'écriture littéraire ou poétique ?
Oui, je crois que de toutes les manières, quand on s'attaque... la matière vivante, quoi, pour créer quelque chose, il y a des moments d'abandon. On essaye de laisser parler son âme. On y arrive plus ou moins bien. Parfois, on guette pendant des heures, 7 minutes, où on saura s'épancher, quelque chose jaillira naturellement. On sent dans ces nocturnes cette forme de conversation intime, de soi à soi. C'est une musique de la solitude qui se fait dans cette respiration du silence où on est seul dans sa chambre à coucher peut-être. Ce qui me plaît dans les nocturnes, c'est cette sensation-là. Qui est une sensation, bien sûr, il y a forcément une volonté derrière, une structure, une architecture. Mais je pense que toute œuvre contient à la fois... les élans de volonté, de sophistication, de raffinement et des moments de pure liberté, d'accident, ce qui rend le bloc de pierre vivant et pas asséché.
Ce que vous proposez dans le déversoir, notamment dans les pages où vous expliquez votre démarche, c'est justement de laisser advenir l'accident.
Oui, un peu en réaction justement à ma façon d'écrire habituellement. Parce que là, le déversoir, ce sont des poèmes automatiques, donc exclusivement guidés par cet élan, ce flux de pensée, exclusivement tourné vers le lâcher-prise, où on accepte d'écrire ce qui nous traverse l'esprit. C'est une discipline, un exercice que je pratique depuis une dizaine d'années. Que j'ai trouvé un peu par hasard, en m'inspirant des surréalistes que j'avais étudiés au lycée, quoi. Parce que, justement, j'étais alourdi par mon idéal et le sérieux que je mets habituellement dans l'écriture. Parce que c'est ma nécessité, c'est mon gagne-pain, c'est là que j'y mets mon ambition et mon désir. Donc, la plupart du temps, écrire, c'est lourd. Et alors, cet exercice-là de l'écriture automatique... C'est un rappel à l'ordre, ou au désordre plutôt, un rappel à soi pour se dire qu'il ne faut jamais oublier que même dans le jardin le mieux taillé, le plus harmonieusement structuré, il faut un peu de sauvagerie, d'accidentel, où on laisse parler l'instant présent, la nature, la maladresse. Sinon, le jardin n'est plus rien que quelque chose de mort. Une nature morte. Et je préfère le still life à la nature morte. Je ne sais vraiment pas où cela me mène. J'avoue avoir quelques craintes. Je me sens vulnérable, à moitié nu. C'est assez difficile de persévérer dans la désinvolture, rester léger, s'y tenir. Il y a quelque chose de paradoxal dans la démarche, faire durer le geste sans gesticuler. Je fais comme si je gardais mon sang-froid, je fais comme si tout cela n'avait que peu d'importance. Mais c'est faux, je prie pour que ça marche. Je durcis l'armure scintillante. Puisse-t-elle éblouir quiconque l'avait rapportée ? Pourquoi s'accrocher si fermement à cette entreprise dérisoire ? S'accrocher à l'ombre d'un oiseau qui passe, à ce fétu de paille emporté par le vent. Je voudrais dire, laisse-toi aller. Laisse-toi porter, tout flotte. Je n'y crois pas moi-même. Mes pieds sont lourds, comme des pierres, envasées dans le lit d'un ruisseau. Et je ne vous parle pas de ma tête. Punitive. Thank you.
Priscille Lafitte.
Chet Baker, Sad Walk. Alors, pour expliquer un peu la cuisine de cette émission à nos auditeurs, vous et moi, on s'est dit, allez, sur Chet Baker, on va lire un texte issu du Déversoir, donc votre premier recueil de poésie, Arthur Teboul. J'ouvre une page complètement au hasard. Et ça la parle d'une démarche qui colle parfaitement à ce sad walk, à cette promenade triste de Chet Baker. Et moi-même, en préparant cette émission, je m'étais surprise à essayer de rechercher des paroles sur ces terres, des paroles qui n'existent pas et qu'on a trouvées ensemble par le hasard des pages. Quand vous écoutez Chet Baker, dans quel état d'esprit croyez-vous qu'il se trouve en tant qu'improvisateur ?
Oh. C'est difficile à dire, hein. C'est difficile à dire et en même temps, je crois que c'est ce qu'on invente, de ce qu'on ressent, de l'interprète qui compte. Et Chet Baker m'accompagne depuis très longtemps. Pour moi, c'est un compagnon d'âme depuis tant d'années. Et j'ai toujours l'impression qu'il vient de tomber du ciel. Sad walk, mélancolique. Hein. Et il y a toujours... On parlait, c'est marrant parce que ce que j'ai dit, c'est des nocturnes de Chopin, j'ai l'impression que ça s'applique aussi à Chet Baker, j'écoute ça quand je marche seul la nuit, pour redoubler encore le sentiment de cette promenade mélancolique.
Vous écrivez souvent la nuit ?
Non, mais je marche souvent la nuit. Et j'écris en marchant. Écrire, c'est d'abord penser quelque chose.
Comment vous écrivez en marchant ?
Ben dans ma tête. Pour des chansons, il y a peu de phrases, il faut les tourner beaucoup dans sa tête.
Et vous avez un petit carnet ou vous avez un dictaphone ?
J'ai plein de petits carnets. J'ai plein de petits carnets dans plein de poches où j'écris deux, trois phrases. Et après, je fais comme on a fait là. Quand je me retrouve avec les copains du groupe pour faire de la musique, je fais confiance au hasard. Donc, je prends un carnet au hasard, j'ouvre et je vois si les phrases sur lesquelles je tombe peuvent me donner le début d'un fil. C'est une pelote, quoi. Après, il faut écrire la suite. Après, tout devient compliqué. Mais je marche à la poursuite d'une idée, d'une phrase, d'une petite chose sur laquelle m'appuyer ensuite.
Et Chet Baker est présent dans ses promenades, parfois ?
Chet Baker, souvent présent dans la promenade, quand même. Ouais, Chet Baker, là, on ne l'entend pas chanter, mais c'est marrant comme sa trompette ressemble à sa voix et inversement. C'est fou, même. C'est fou à quel point ce souffle-là semble être le même. C'est pas pour rien. Il chante avec l'âme. Ange déchu, tout le temps. J'écoute et j'ai l'impression de... à la fois d'une grande lumière au cœur de la désolation et à la fois tout le contraire. Plein de désolation dans un moment de fête. Let's Get Lost, chanson comme ça d'amour, il invite son amant, une partenaire à la danse et à s'oublier au milieu de l'ivresse de la foule. C'est tout en même temps, quoi. Le sentiment de sa trompette, il est là-dedans. Un instant, la lumière tourne et c'est « je suis seul au milieu de la joie et tout n'est que vanité ». Et un instant, c'est une éclaircie, un soleil mouillé au milieu de la nuit. J'aime bien ce genre de sentiments.
Et ce qui est drôle aussi dans les hasards de cette émission, c'est que ce texte ouvert dans le recueil des versoirs, L'armure scintillante, arrive juste après un texte que vous avez écrit en hommage à Christian Bobin.
Ah oui, ça c'est le hasard, j'ai confiance au hasard. On va lire ce texte ou pas ?
Oui, allez-y.
D'accord, très bien. Il s'appelle À Bobin. Et en plus, voilà la phrase tombe à pic, la première. « Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité, » dit le sage. « Je pense à toi. La nuit est claire, c'est déjà le début de l'hiver. Quelque chose scintille dans un coin. Clarté diffuse, qui ressemble à un sourire doré. Lumière et sourire sont de la même étoffe, pour qui sait toucher. Les oiseaux libres, les arbres sans maître, ce qui est offert sans qu'on le possède, tu savais le toucher, le cueillir, et le montrer. L'accueillir serait plus juste, pour ne pas déraciner. Ne jamais déraciner la fleur. Mais la noirceur, la prédation, patiemment, tu pouvais. Creuser la terre avec force et tranquillité, avec certitude. Une fois, ta voix a dit les mots qui soignent tes maux, et j'ai compris quelque chose de plus qu'en te lisant. Le calme des profondeurs sonne parfois comme un rire. Crépite l'or niché au fond de l'âme, quand les simples mots de tes formules magiques emplissent le puits.
musique de Ryuichi Sakamoto pour accompagner ces textes sur Christian Bobin, Arthur Teboul. Est-ce que le hasard fait bien les choses ?
Toujours. De toute façon, il vaut mieux lui faire confiance parce que il nous rentre dedans. On le prend en pleine figure.
Le hasard ?
Bah oui. Ce qui vient, vient. Alors, plutôt que d'essayer de résister sans détourner, arrondissons. On l'accueille et puis on le transforme. Puis ça nous fait gagner du temps, n'est-ce pas ? D'être sûr que ce qui vient est bon pour nous.
Tiens, il pleut. Il pleut sur les jardins à languir. Sur les roses de la nuit, il pleut des larmes de pluie. Il pleut, et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli! La pluie, dès que Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois, car il commence à faire froid. Ici, tu le dédes, tu le dédes, tu le dédes, tu le dédes. Mon Pierre, sur la campagne endormie, le silence, et puis un cri, c'est rien, un oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau cette pénombre, le ciel, la feu et l'ombre qui se glisse jusqu'à moi sans bruit. Une odeur de foin coupé monte de la terre mouillée, une auto descend l'allée, c'est lui.
Bravo, dit Arthur Teboul quelques années plus tard. 1968, Barbara à l'Olympia. On dirait qu'elle regarde par la fenêtre et elle dit, tiens, il pleut.
Elle attend Pierre.
Alors qu'elle est dans une salle toute noire.
Ça permet la chanson de se transporter.
Cet art de rendre l'illusion.
Oui, et puis surtout un moment aussi banal, fugitif, que l'attente, un matin, un soir, on ne sait pas, il pleut quoi. Il pleut, c'est tout. Puis on attend quelqu'un qui va rentrer, on ne sait où. C'est très émouvant, ça, de réussir à rendre en chanson une chose aussi délicate, petite.
Et d'arriver à le rendre sur scène aussi, en public, à un moment, à un instant.
Ça, je pense que Si la chanson est aussi forte que celle-là, quand Barbara arrive sur scène avec cette chanson, elle a qu'à se réfugier dans la chanson. Il n'y a plus de difficulté à la rendre sur scène ou ailleurs. Quand la chanson est si expressive, si forte, si sûre, devient un véhicule, une maison en fait. On peut se promener partout avec, se balader, et on pose la maison, alors que ce soit un chapiteau comme ça, dans une salle sombre, devant un public ou très tôt dans la rue, c'est pareil. Si on a confiance dans cette petite maison, ce véhicule, qu'est la chanson, mais bon, pour ça, il faut avoir une grande chanson. Et Pierre est une grande chanson.
Il faut faire confiance sur l'instant, c'est ça la clé.
Plus que confiance, il faut s'apesantir, entrer dans l'instant. Il faut entrer en soi-même et dans l'instant, s'approfondir. Le moment où on raconte une histoire, bon, c'est ce qui me plaît autant. On va sur scène hein, maintenant, ça fait 15 ans, avec des centaines de concerts par an, donc c'est une expérience renouvelée, qui est une exploration continue. C'est ce moment frontalier où on est à la fois dans le lâcher-prise total, abandonné, et que ce lâcher-prise confine à une extrême présence, attention à soi et aux autres. Il y a des moments comme ça, presque à la fois méditatif et d'écoute. C'est particulier. Hein.
On est sûr d'être juste dans ce moment-là ?
Je crois, oui. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on recherche, enfin, ce que je recherche à chaque fois que je monte sur scène. Et d'ailleurs, c'est facilité par le public. Quand on chante sa chanson chez soi devant un mur, à qui raconte-t-on notre histoire ? Quand des gens sont là devant vous, les pères Dieu, des cœurs qui battent, qui vous écoutent, bah, ils vous obligent à une intégrité, à chercher cette vérité, à chercher cette honnêteté, à dire au mieux ce que vous avez là, quelque part en vous. Donc, c'est ce que je cherche sur scène, à essayer de faire durer ce moment de vérité. Parfois, c'est une minute dans une heure. Parfois, c'est une heure entière. Parfois, c'est... Et on remet ça, chaque soir, on recommence à zéro, pour chercher cette vérité intérieure qui, on espère, lorsqu'on la trouve, devient une vérité partagée.
Et vous, Arthur Teboul, vous qui représentez Fischer Terten, quand vous écoutez Barbara, est-ce que vous prenez une leçon ?
Oui, c'est une école. Parce que c'est marrant, parce que quand on est chansonnier, qu'on fait de la scène, finalement, on n'a pas vraiment d'école, de véritable maître pour apprendre à le faire. Donc, avec le temps, je me suis habitué à me tourner vers ces maîtres et ces maîtresses-là. En écoutant Barbara sur scène, en écoutant Brel, Brassens, Ferré, qui sont mes maîtres depuis l'adolescence dans l'art de la chanson. Je suis plus attentif encore qu'avant à ça. C'est-à-dire que maintenant, je les écoute en élève plus qu'en spectateur.
Et là, vous êtes attentif à quel détail ?
Là, ce qui m'a plu, par exemple, dans ce que j'entendais de Barbara, c'est d'accepter cette fragilité totale. C'est-à-dire de ne pas penser... C'est difficile, hein, quand on est devant des gens et qu'on interprète. Parfois, on a peur de la fausse note. Mais cette peur-là, elle vous entraîne sur le chemin de la fausseté. De la vraie fausseté, si j'ose dire. C'est-à-dire que la vérité n'est pas dans la justesse absolue. Ou en tout cas, si on est obsédé par la justesse, si on cherche à bien faire, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas vraiment à ce qu'on dit et dans ce qu'on raconte. Et parfois, dans ce qu'on raconte, on glisse. Et on n'est pas tout à fait juste sur la note, on n'est pas tout à fait... Mais on est juste ailleurs, plus profondément. Alors, c'est encore mieux si tout est juste en même temps. Mais trop y penser, trop penser à bien faire, montrer qu'on sait bien faire, bah, c'est un grand risque. Et quand on écoute Barbara, les plus grands interprètes, on sait qu'ils ont réussi à se détacher de ça. C'est dans une autre vérité, une autre intégrité, qui ne les détourne pas de la justesse dans l'exécution, mais la justesse, ça, elle est ailleurs. C'est une tension, hein, c'est une danse avec soi-même. Parce qu'il faut s'oublier. C'est jamais gagné d'avance, c'est jamais sûr. Et même quand on est dedans, même quand on est au bon endroit, si on se satisfait, on n'est plus au bon endroit. J'aime bien quoi cette recherche d'être de l'attention. Attention, c'est le bon mot, je crois. D'être resté alerte, d'être attentif, de faire attention. Donc c'est fatigant. C'est une discipline aussi. Mais est-ce qu'on doit se reposer ? Pas sûr.
Wendy Carlos qui revisite le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. On retrouve aussi ici l'état d'esprit de Klaus Nomi.
Oui, cette transformation.
De gravité et de légèreté.
Qui est dû aussi à l'instrument. C'est ce qui est beau, c'est comment en changeant simplement d'instrument, bah une musique se transforme, change et révèle d'autres parts d'elle-même. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans le travail de Wendy Carlos, c'est la virtuosité avec le Moog, l'instrument, le synthétiseur, qui aussi popularise à un moment une œuvre qui peut être est réactualisée. Et c'est une musique qui est utilisée comme bande-son de Orange Mécanique, de Stanley Kubrick. J'aime bien quand la culture populaire et la culture savante, on va dire, se mélangent. Quoi.
Parce que du coup, on regarde de biais, on regarde autrement la culture savante.
Et dans les deux sens, c'est dans les deux sens. C'est pas seulement un travail de démocratisation, c'est pas ça. C'est que les deux s'apportent. Je trouve que... En fait... Le risque de la culture populaire, c'est d'être trop intimidé, donc de mépriser ce qui serait une culture savante par principe. Mais le risque de la culture savante, c'est de rendre mort un artiste ou rendre morte une œuvre qui continue de vivre. Et quand Wendy Carlos joue Bach, on se dit que je pense que les artistes les plus morts d'entre tous, et qui pourtant continuent d'être célébrés, si on les respecte, si on les aime vraiment, on a confiance dans le fait que leur œuvre doit être questionnée et qu'on doit les secouer comme des êtres de chair. Sinon, ça devient des statues et c'est là qu'on les tue. Donc le piédestal, attention.
Merci beaucoup, Arthur Teboul, d'être venu dans Musique et moi ce matin, passer cette heure avec nous. Votre dernier ouvrage s'intitule L'Adresse. À qui vous adressez d'ailleurs ?
D'abord à ceux venus me visiter dans ce cabinet de poèmes minutes qui ont fait naître ces poèmes. Et ensuite à tous les lecteurs, parce que je crois que quand on s'adresse à une personne, et on aurait pu dire ça pour Barbara aussi, c'est un truc ça sur scène. On s'adresse à une personne droit dans les yeux, on a plus de chances de s'adresser à tous.
Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi ce matin. Manon Houssin à la technique, Claire Lagarde à la réalisation, attachée de production, Maud Nourry. Passez un très bon dimanche sur France Musique. Et la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.